Europe 1.
10h, 11h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Europe 1 au rendez-vous de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui vous donne envie d'aller dans nos salles obscures, même l'été, surtout l'été d'ailleurs. Alors que vous soyez en vacances ou au travail, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. En première partie de Clap, on se replongera dans les films qui se passent à la campagne à l'occasion de notre cycle autour des thématiques de l'été. Didier Allouche, comme chaque semaine pendant tout l'été, reviendra sur l'un de ses souvenirs marquants aux Oscars. Et puis nous avons compilé le meilleur des réponses de nos invités au questionnaire des films de leur vie. Aujourd'hui, ce sont ceux de Joe Starr et Alexandra Lamy. Enfin, plus rafraîchissant qu'une baignade à Saint-Malo, Franck Vallière et Victor Bonnefoy.
Oh, mais deux baignades dans Franck Vallière, bien évidemment.
Comment allez-vous ?
Fraîchement.
C'est vrai qu'il commence à faire chaud tout de même.
Bon allez, vous allez vous sécher. Juste un mot sur la dernière partie de l'émission, on parle de quoi ?
Moi de mon côté, on va parler de L'année du requin, le nouveau film des frères Boukerma qui après Teddy reviennent avec Cadmerade, avec Marina Foïs et avec un peu de déception pour moi.
Ouais. Et moi je vais vous parler un peu de Bullet Train, le très tarantinesque Bullet Train avec Brad Pitt et aussi, alors rien à voir, le très turc Les Promesses d'Hassan.
Parfait, voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
10h, 11h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
En galinette, hein. On y est là, hein.
Écoute, tu fais très bien le berger. Est-ce que vous sentez cet air pur, la nature, le calme? Eh bien, c'est notre thématique estivale cette semaine, vous l'avez deviné. Oubliez la mer, oubliez la montagne, c'est complètement has-been. On aime la campagne, on parle de campagne aujourd'hui avec une sélection des films qui se passent à la campagne, au cinéma. Et on ne pouvait pas commencer cette rubrique sans citer évidemment La gloire de mon père et Le château de ma mère. Ça vous dit quelque chose, les garçons ?
Ouais, bah forcément.
Marcel Pagnol ?
Moi, surtout, c'est la musique. La musique de Vladimir Kosma qui commence avec les grillons. Oh.
Toute notre enfance, eh bien, c'est Yves Robert qui nous emmène au cœur de la campagne et surtout qui nous parle de l'enfance de Marcel Pagnol dans ses films authentiques, émouvants sur la famille et sur l'éducation.
Tu n'as pas mal à la tête ?
Non.
Quand a-t-il lu pour la dernière fois ?
Hier matin, le couvercle d'une boîte de savon.
Et depuis ? Rien.
Eh non, votre sœur ne veut plus.
C'est pour son bien. Vous allez lui faire exploser la cervelle.
Maman, je suis malade.
Mais non, reprends de la tarte.
Bah c'est vrai qu'ils ont marqué des générations. D'ailleurs, ils continuent aujourd'hui, hein, Marcel Pagnol. C'est inépuisable. Il y a eu la suite, Le Temps des Secrets, qui a été réalisé par Christophe Baratier, qui est sorti cette année, Franck.
Et les gardiens du temple ont évidemment hurlé au loup, parce que comment ça, peut-on toucher un Pagnol ? Au secours ! Et en fait, ce qu'a apporté Baratier, notamment, c'est des plans au drone sur cette campagne en fin d'après-midi. C'est juste très, très beau quand même.
Alors, dans un autre genre, s'il y a bien un film qui nous fait rêver, nous donne envie d'aller à la campagne, c'est un film des studios Ghibli, Mon voisin Totoro, de Miyazaki, deux petites filles qui emménagent dans leur nouvelle maison très reculée et entourée d'une forêt qu'elles vont partir explorer. Et c'est là qu'elles vont faire la connaissance de créatures magiques et surtout d'un certain Totoro, l'idole de mes enfants.
Chère maman, mon cœur bat très fort à l'heure où je t'écris. Nous avons vu Totoro, nous l'avons vu toutes les deux.
Et c'est une chance car peu de gens l'ont vu.
Victor Bonnefoy,
Ah, on aime beaucoup. Ah, mais totalement amoureux, fou amoureux des studios Ghibli. C'est fou quand même de se dire que ce film est sorti en 1988 et qu'il est toujours aussi palpable, toujours aussi prenant pour les enfants. Il y a quelque chose en fait de l'appel à la nature, de l'appel à l'évasion qui est absolument magnifique, mais qui a toujours fonctionner justement chez les studios Ghibli dans ce côté justement de défense d'une certaine écologie, défense d'une certaine nature. Et c'est encore une fois ça, c'est des gamins qui découvrent ces bestioles-là et qui vont aller vivre avec eux dans les bois. On a envie d'être ces gamins, on a envie d'aller se balader avec eux. Et par chance, on le pourra bientôt parce que, et là c'est la petite anecdote, l'année prochaine va ouvrir au Japon un parc d'attractions dédié aux studios Ghibli.
Génial.
Et donc on pourra parcourir tous les films des studios Ghibli, que ce soit Le Château Ambulant, Le Voyage de Chihiro et donc aussi Mon voisin Totoro.
Est-ce qu'il y aura le taxi-chat ?
Je crois qu'on pourra rentrer dans le taxi-chat. Malheureusement, je crois qu'il ne bougera pas parce que les chats géants, si ça existait, la CIA serait sur le coup.
Bon, et puis la campagne rime aussi avec accueil ou pas. On pense forcément à Bienvenue à Marly Gaumont, où une famille originaire de Kinshasa s'installe car le père est médecin. Finalement, il va vite devenir très réputé. C'est une comédie de 2016 qui s'inspire de la vie du père du chanteur, plutôt du rappeur Kamini.
C'est un vrai ?
Aussi vrai que celui des autres.
Écoutez, je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme.
Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille.
Il faut qu'on aille habiter en France.
Oui, dans un petit village au nord de Paris.
Ah, là, Paris ?
Enfin, c'est un peu plus au nord.
Le printemps, les Champs-Élysées.
Bienvenue à Marly Gaumont.
La force du film, c'est que Julien Rambaldi, le réalisateur, provoque des situations ubuesques. C'est-à-dire, on est dans la France des années 70, qui est une famille de quebla africains qui débarque. On pourrait rire aux dépens de quelqu'un, car l'humour, c'est souvent aux dépens de quelqu'un. Et en fait, au lieu de ça, on rit avec. Et vraiment, c'est pas simple de rire d'une certaine forme de racisme, en tout cas de découverte de l'autre dans cette France-là. On rit autant du désarroi d'une partie que de la surprise des autres. Et au final, on rit ensemble de certaines situations qui vont, bien sûr, vers l'intégration, etc. C'est un très joli film, très sensible.
Alors, si on a envie de rire, hein, dans un autre registre, il y a Evil Dead, Victor.
Ah oui. Ah bah là, oh, si on veut partir. Ah,
bah, on rit quand même.
Alors, oui et non.
Oh. C'est un peu vieilli.
Alors déjà, non. Non. Attendez. Il faut qu'on s'explique sur Evil Dead. Parce qu'à la base, Evil Dead 1, Sam Raimi, il fait le film parce qu'il dit j'ai pas de thunes, j'ai que des potes, on part à la campagne, on tourne ce truc de maison hantée. Mais le premier Evil Dead est plutôt sérieux. Ouais. C'est à partir du deuxième opus où, en fait, il refait exactement le 1. D'ailleurs, je vous encourage quand même à voir le 1 et le 2. Parce que le 2, en fait, c'est le 1 où il se dit maintenant j'ai de l'argent. Maintenant j'ai plus de comédiens, maintenant je peux faire n'importe quoi et vraiment m'amuser. Et à partir du 2, ça devient fou furieux.
Et alors
le 3, l'armée des ténèbres, là c'est encore une autre aventure. Mais vraiment, voyez Evil Dead, je trouve ça au contraire pas trop
bien. C'est un film d'horreur, mais moi je trouve qu'il est tellement kitsch.
Le premier fait encore un peu peur. Le premier fait encore vraiment peur. Alors que le 2, le 2 c'est plus rigolo.
Et puis le remake de 2016 ou quoi,
c'est super. C'est trop bien. Le travail de Fede Alvarez est incroyable. Il y a eu un remake en 2016 par Fede Alvarez. Et Fede Alvarez a ensuite fait les films Don't Breathe aussi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus jamais vous ne dormirez dans une cabane abandonnée à la campagne une fois que vous aurez vu ce film.
Quelle idée dormir dans une cabane abandonnée.
Mais parce que
tu as
envie de faire ça, c'est incroyable.
Bah ouais, on n'est pas aventuriers avec Victor.
Bah, dis donc.
On pose pas notre tente n'importe où.
Hors de question.
Bon, pour terminer dans une ambiance détendue, très détendue, parce que la campagne, c'est ça aussi. Les Baba Cool, film de 1981. Réalisé par François Le Terrier, qui met en scène Christian Clavier, qui rejoint une communauté de Baba Cool. Et il découvre toute une nouvelle façon de vivre, très loin de ses principes bourgeois.
Si vous voulez, là-bas, c'est tout à fait une autre façon de vivre.
Vous êtes écolo, quoi.
C'est un vrai nid à gonzesses, cette communauté.
On retrouve les vrais rythmes.
J'ai envie de faire l'amour avec toi.
Bah écoute, non, si ça peut te rendre service. La vraie valeur des choses simples.
J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar.
C'est sympa comme ambiance ici. Mais c'est quoi comme trip ? Écolo, sexo ou mystico ?
Hein ?
On prie ou on baise ?
Franck ?
Alors, les Baba Cool, c'est super, mais de ce coup,
Mais vous avez mieux.
Ah, pas mieux, mais en tout cas, un qui est particulier dans mon cœur, sur la même tendance, c'est-à-dire la campagne, les années 70. Georges Lautner a réalisé un film qui s'appelle Quelques messieurs trop tranquilles. Juste le. Si jamais vous rêvez de voir Michel Galabru avoir fumé de l'herbe dans une tente de hippie avec des nanas topless, c'est absolument délirant.
Chacun ses fantasmes, Franck Vallière. Vraiment.
Il y a toutes les gloires du cinéma français des années 70 là-dedans. C'est à hurler de rire comment les campagnards dans un petit village accueillent un campement de hippies et les contradictions qui naissent entre ces deux mondes-là.
En parlant de village, parce que vous étiez très très inspiré, il y avait le village justement.
Mais oui, le village de M. Night Shyamalan, film absolument dingue dont on ne peut, comme souvent avec les films de Shyamalan, pas vous raconter la fin au risque de gâcher une partie du film. Mais le village qui a été un peu décrié, c'est le moment où on a parlé du cinéma de Shyamalan en disant oh ouais, c'est peut-être pas si intéressant. Je trouve que c'est un immense film d'amour, je trouve que c'est d'une poésie absolue et en même temps ça fait vraiment peur. Revoyez le village aujourd'hui, c'est un bonheur. Il y a Joaquin Phoenix dedans, quelle merveille.
Bon, j'espère que vous avez profité de cette première partie très campagnarde pour respirer un bon bol d'air. J'espère que ça vous a surtout donné envie de redécouvrir des films. En tout cas, il y en a un qui n'est pas souvent à la campagne, il préfère Hollywood Boulevard, Beverly Hills. Ça nous arrange puisque comme ça il nous donne plein de scoops tout au long de l'année. Et là, pendant l'été, il a décidé de se remémorer certains souvenirs des Oscars. C'est Didier Alouche, voici son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Cette semaine, dans notre série des grands moments des Oscars, à la première personne, l'année du Seigneur des Oscars, des Anneaux.
And the Oscar goes to. It's a clean sweep.
The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson and Fran Walsh producers.
A clean sweep, un ramassage parfait. Si Steven Spielberg a rajouté cette petite phrase avant d'annoncer le titre du film vainqueur de l'Oscar suprême ce 29 février 2004, c'est que Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi venait de remporter 11 statuettes sur 11 nominations. Ainsi, il égalait le record du nombre d'Oscars remportés, 11 donc, comme Ben-Hur et Titanic, et rentré dans l'histoire d'Hollywood. On ne va pas vous mentir, personne ne doutait à l'époque que le film remporterait les Oscars les plus importants. Non pas que ce soit le meilleur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, conçue par Peter Jackson. Personnellement, j'ai une grosse faiblesse pour Les Deux Tours, le deuxième épisode, mais Hollywood est reconnaissant. Reconnaissant d'abord envers une franchise qui a rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Reconnaissant ensuite envers une trilogie qui aura réconcilié blockbuster et grand cinéma épique. Reconnaissant enfin envers Peter Jackson pour avoir réuni fans, cinéphiles et grand public autour d'une même histoire. L'aventure Seigneur des Anneaux n'avait rien d'évident au départ. Son triomphe critique et public n'en est que plus méritant. D'autant plus que presque 20 ans plus tard, aucun film ne fera autant l'unanimité aux Oscars. Jamais depuis, un film n'a autant dominé la soirée. Des films à 5 ou 6 Oscars, oui, il y en a eu, mais un film qui s'impose dans toutes les catégories où il est nommé, ce n'est plus arrivé depuis. Il faudra peut-être attendre le deuxième Dune de Denis Villeneuve d'ici 2 ans ou Avatar 2 de James Cameron dès l'an prochain pour voir ça de nouveau. Tiens, puisqu'on part d'Avatar, le premier semblait bien parti pour réussir le même genre de coup avec 9 nominations en 2009. Il aura seulement 3 Oscars, se faisant shipper les principales statuettes par un film réalisé par une femme. C'était une première. Je vous la raconte la semaine prochaine.
Merci beaucoup Didier Allouche. Dans un instant, Alexandra Lamy et Joey Starr nous diront tout sur les films de leur vie. A tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1. Tout au long de cette saison, j'ai eu le bonheur de recevoir des acteurs, réalisateurs, réalisatrices, actrices qui font le cinéma. Chacun ont accepté de répondre à un questionnaire sur les films de leur vie. Et pour cette émission spéciale, nous avons décidé de vous condenser les meilleures réponses.
C'est Alexandra Lamy. On parle du cinéma et des films de votre vie. Votre première émotion au cinéma?
E.T.
E.T. Maison téléphone.
Premier roulage de pelle, même.
C'est vrai.
Un roulage de pelle, petit bisou.
Vous aviez quel âge?
Je me rappelle plus, c'est de quelle année E.T. Oh, je devais être jeune. Hein. Mais c'est le premier petit bisou, le petit smack.
Oui, petit bisou,
quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Le petit smack. Vous savez, c'était
peut-être
les années
pas la vraie
aussi.
Pelle.
Non, c'était pas la vraie pelle, mais c'était les années aussi, on allait un peu au cinéma avec le petit copain.
Oui, oui, oui.
Enfin, c'était la sortie, quoi.
Et oui, puis c'était l'endroit où on pouvait avoir un peu d'intimité.
Voilà, on pouvait un peu se toucher la main, l'air de rien, en regardant un film. Parce qu'à un moment donné, il y avait une scène sans doute très romantique, en se disant, oh là là, c'est trop beau.
Et ah oui, quand E.T. retourne chez lui, là, vous pouvez vous blottir dans les bras.
Et puis honnêtement, E.T., c'est. Mais je crois que pour tout le monde, d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre total. Bon, moi, je suis une énorme fan de Spielberg parce que je trouve que c'est un des réalisateurs qui arrive à faire des films entre La Liste de Schindler, E.T., enfin, je peux en citer...
Et West Side Story, en ce
Story
au cinéma, d'ailleurs.
Enfin, qui est capable de tout faire, c'est incroyable. Des Indiana Jones, enfin, je veux dire, c'est dingue. Et E.T., je veux dire, c'est extraordinaire. Et j'ai su cette anecdote-là, c'est qu'au départ, il n'y avait pas du tout le personnage d'E.T. dans le film.
Ah oui,
c'est venu bien après. En fait, Spielberg, il avait fait ce film-là uniquement pour raconter une histoire d'un enfant qui n'avait pas de père. Et donc, c'était juste cette relation qu'il voulait
avec
écrire avec un ami imaginaire. Et il a rajouté E.T., mais bien après.
Votre meilleur souvenir de cinéma?
Mon meilleur souvenir de cinéma... Alors, c'est marrant, c'est un dessin animé, ça s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Parce que je l'avais vu avec ma grand-mère. Parce que souvent, les grands-parents nous emmenaient un peu le mercredi après-midi au cinéma. Et donc, j'ai un souvenir de ce... Parce que Le Roi et l'Oiseau, c'est un super dessin animé, en fait. Et c'est vrai que...
Le texte de Prévert.
Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que c'est... En voyant le film plus tard, je me dis, tiens, c'est marrant que, jeune, on ait aimé ce genre de dessin animé. Et on est très surpris, parfois, pour les, chez les enfants, de se rendre compte qu'ils aiment bien, justement, ce genre de dessin animé parce qu'ils sont un peu à l'encontre de ce qu'on voit, peut-être
oui,
moins...
Oui, avec moins d'effets,
ouais.
Moins
et donc,
de...
j'ai eu un super souvenir de ce dessin animé, Le Roi et l'Oiseau.
C'est un film magnifique. Vous nous aviez dit aussi 2h moins le quart avant Jésus-Christ.
Ah, oh, bah ça... Alors, je vais vous dire pourquoi 2h.
C'est ça, je me suis dit que ah ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que depuis la rentrée, personne nous a cité ce film, donc c'était très bien qu'on en parle.
2h moins le quart, je vais vous dire, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'est un souvenir extraordinaire parce que j'avais vu donc au cinéma d'Alès avec mes parents, parce qu'en plus là, on y allait souvent avec les amis, etc. Je n'ai jamais entendu une salle rire autant. Et dont ma mère, qui a un rire tellement
Michel
communicatif,
Serrault.
Il faut mettre ma mère dans une salle. Si vous avez un film de comédie, si vous voulez que la salle rigole, vous mettez ma mère. Elle a un rire communicatif extraordinaire et un très beau. Et je n'avais jamais entendu une salle rire autant. Et en plus, le film était formidable, extraordinaire, avec une brochette d'acteurs fabuleux et puis une liberté aussi.
Oui, c'est vrai, pour l'époque.
On perd aujourd'hui parfois et qu'on n'avait pas peur à l'époque d'y aller un peu, quoi, de faire presque, j'allais dire entre guillemets, de la caricature et de l'assumer et d'y aller à fond.
Complètement, c'est de la caricature de péplum.
Mais complètement,
à 2000%.
Et c'était génial. Et j'ai jamais entendu une salle rire autant, mais les gens, c'était dingue. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'est incroyable.
Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ?
Ouais !
Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ?
Ouais !
Que les émirs, la police et l'armée sont des cons.
Ouais !
Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons.
Ouais !
Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
Ouais !
Le film qui vous fait le plus rire.
Ah oh bah, de toute façon, c'est forcément un film de Jim Carrey. Allez, je dirais Fou d'Irène, parce que bizarrement, on le connaît moins et que c'est génial.
Oui, c'est vrai.
C'est
avec René Zellweger.
Ah ouais, c'est extraordinaire.
Frères Farrelly.
Bien sûr. Extraordinaire, mais j'adore, et j'adore Jim Carrey qui est pour moi vraiment un génie. Et d'ailleurs, dans Fou d'Irène, il se fait une bagarre avec lui-même, mais c'est du génie. D'ailleurs, je pense que cet homme est fou. J'avais vu le documentaire sur lui.
Oui, il est complètement
fou. De toute façon, on peut être que fou.
Il est habitué.
Mais c'est un
très
acteur,
habitué.
Mais incroyable. Et lui, j'adore parce que il n'a pas peur d'y aller, quoi.
Vous aviez aimé aussi Dumb and Dumber.
Mais Dumb and Dumber.
Ça me rassure.
Mais évidemment, je le connais même par cœur. Je suis avec du givre. Ça, c'est le truc. C'est tout con. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait rire quand il dit chouette du givre et qu'il se colle la langue contre.
Et qu'il reste collé. Avec Jeff Daniel, non, mais ce duo est quand même.
Ce duo fabuleux.
Donc rien à voir, votre comédie romantique préférée.
En ce moment, je l'ai pas encore vue de Spielberg, mais White Side Story. Mais oui. Et d'ailleurs, que les jeunes adorent. Moi, je me rappelle, je l'ai montré à ma fille. Elle devait avoir, je sais pas, 12, 13 ans, mais elle le regardait en boucle.
Ouais.
Mais c'est extraordinaire, ouais, ça. Et c'est
les chansons, l'image, la photo,
l'image,
tout.
Les acteurs sont formidables. Et c'est là où les Américains, ils sont hyper forts pour les comédies musicales. C'est qu'ils ont des acteurs qui savent et jouer, et chanter, et danser, parce qu'ils ont des écoles pour ça que parfois, nous, on ne fait pas. On néglige, je pense, dans les écoles de théâtre, le chant et la danse. Et c'est tellement génial d'avoir ces compléments. C'est hyper important pour un acteur, je pense.
Ah bah c'est sûr, mais la version Steven Spielberg est vraiment extraordinaire. La mise en scène est dingue, il a remodernisé ce film. Enfin vraiment, je vous le conseille vivement. Mais allez le voir avant le 29, comme ça après vous pouvez aller voir le test.
Oui.
En toute tranquillité.
Je vous avais jamais vu avant. Vous n'êtes pas portoricain.
Et c'est grave.
Tu veux déclencher une troisième guerre mondiale ? Ce type, personne ne te le pardonnera.
La vie compte plus que tout, plus encore que l'amour.
Un film à conseiller à un enfant.
Un film à conseiller aux enfants, mais les Goonies. Mais les Goonies, mais
ouais,
c'est extraordinaire, les
Choco,
Goonies.
Choco, Sino, Sinoc, enfin.
Ah ouais, mais génial.
Ça sent les glaces. Ce sont des glaces à l'italienne. Et regardez, il y a vanille pralinée et vanille chocolat. Il y a aussi fondant chocolat. Et quoi, quoi ? Ah !
Mais tous les enfants adorent.
D'ailleurs, c'est Spielberg qui a écrit.
Mais bien sûr, c'est Spielberg. Évidemment, c'est un génie. Ouais. Cet homme est un génie.
Mais vous l'avez déjà rencontré ?
Non, mais j'adorerais. Ah, mais ça serait terrible d'ailleurs, parce que je crois que je serais accrochée comme une moule à son rocher, comme ça. Ça serait terrible. Je suis tellement fan, j'adore. Et en plus de l'avoir vu dans des interviews, cet homme a l'air tellement très ouvert. Moi, je sais que j'ai des copains qui l'ont rencontré, qui ont pu lui parler d'une façon. De toute façon, les Américains sont parfois beaucoup moins prétentieux
que
nous.
Ils sont assez sympas.
Et on peut leur parler, ils ont ce côté très amazing, mais en même temps, ils ont ce côté aussi, on peut leur parler très facilement.
Très accessible.
Et très accessible. Et ça, c'est super. Et les Goonies, mais il faut montrer ça à vos enfants, ils vont adorer.
Mais c'est moi, j'ai des souvenirs de ce film.
Génial.
Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, film d'aventure, de bande comme ça, c'est incroyable. Après, je ne saurais pas déterminer à partir de quel âge on peut regarder les Goonies. Il faudrait que je le revoie, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment.
Ouais,
ça
aussi,
peut faire peur aux tout petits quand même.
Oui, peut-être aux tout petits. Aux enfants aussi, moi je me rappelle, c'était le Noël de Mickey. Vous vous rappelez pas de ça ? Le Noël de Mickey, c'était avec Picsou. Et donc, c'est un Jiminy Cricket, je crois, qui vient montrer à Picsou les Noëls passés, les Noëls présents et les Noëls futurs. Et c'est les Noëls de Mickey. Et donc, Picsou, qui est extrêmement radin, je me rappelle, Mickey était son ouvrier et il n'a pas beaucoup d'argent. Et en fait, il est extrêmement radin, Picsou. Et donc, il a un petit Jiminy Cricket, comme ça, le soir de Noël, qui vient lui montrer le Noël passé, le Noël présent de Mickey et le Noël futur. C'est hyper beau et ça fait penser un peu à La vie est belle de Capra.
C'est vrai ?
C'est magnifique.
Je prends note.
Ah ouais, le Noël de Mickey, c'est magnifique.
Que moi, ça y est, il y en a une de 3 ans, donc je peux commencer. Je me fais ma liste grâce à tous mes invités chaque semaine.
Sinon, les enfants, ils adorent tout ce qui était. Moi, je montre ça à mon petit neveu. Mais alors, tout ce qui est Bugs Bunny,
tous les cartoons.
Tous les cartoons. En fait, les gamins, ils adorent. C'est bien sûr. Ça aussi, il y a une liberté de dingue.
C'est vrai.
C'était génial.
Alexandra, votre bande originale préférée ?
Ah là là, je crois que j'en ai pas mal.
On a parlé de West Side Story, évidemment.
Bien sûr, elle est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé Hans Zimmer, il y en a pas mal. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est de Ennio Morricone, ça s'appelle Friends, qui est extraordinaire. J'adore mais j'adore aussi Ennio Morricone dans tous les...
Et j'allais dire, quand est-ce qu'il a fait une mauvaise musique, Ennio Morricone ?
Je crois que jamais.
Je crois que pareil, on en parle chaque semaine dans Clap, Ennio Morricone,
mais complètement,
mais en même temps,
ouais.
C'est culte.
C'est culte.
Ne bougez pas, Clap revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
10h, 11h.
Clap. Laurie Choleva.
Clap continue sur Europe 1 tout au long de cette saison. Vous le savez, puisque j'espère que vous nous avez suivis. J'ai eu le bonheur de recevoir celles et ceux qui font l'actualité du cinéma. Ils ont tous accepté de répondre à un questionnaire sur les films de leur vie. Et bien, pour nos émissions spéciales, nous avons décidé de vous condenser les meilleures réponses. Tout de suite, voici celle de Joey Starr. On va parler des films de votre vie. Vous nous avez cité des films comme Chat noir, chat blanc, Le temps des gitans. Qu'est-ce qui vous plaît ? Le côté bruyant ?
Par exemple, je ne suis pas du tout comédie romantique, mais j'aime les histoires humaines.
Il anticipe mes questions.
Pas du tout.
Vous aimez, oui, les rapports
J'aime les histoires humaines. Ouais, je trouve que ça a tellement de force, tellement de vie tout court. Quoi.
Et puis, il y a de la musique.
On parlait de Five Star tout à l'heure. Franchement, la cuisine, c'est l'alibi qui fait la raison, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, quand j'ai fait ce magazine, c'était parce que j'ai un réseau de chefs et ces gens, quand je me retrouve avec eux, ils ont toujours des histoires vertigineuses à raconter. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi au cinéma, quoi, avant tout.
Et le partage aussi. C'est ça aussi le point commun de la cuisine et du cinéma. Mmh. Vous avez cité aussi Un singe en hiver, d'Henri Verneuil.
Ouais.
Dialogue de Michel Audiard.
Ouais. Ça, c'est mon enfance, en fait. Moi, j'arrive d'un endroit où les gens parlaient comme ça, avec ce langage fleuri. Donc, c'est vraiment... Il y a ce film-là, il y a Ne nous fâchons pas. Enfin, il y en a toute une ribambelle, quoi. Voilà, mais pour moi, c'est une époque.
Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
T'as raison, on n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon.
Et les calmes, qui c'est qui va les payer ?
Adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise.
Jean Gabin face à Jean-Paul Belmondo. Elle est magnifique, cette réplique.
Ouais,
des vrais gens, voilà.
Voilà, des vrais gens. Ouais.
Les dieux sont tombés sur la tête aussi. Vous aviez dit, bon, non, on aurait pu en...
Bon, c'est déjà plus muet.
Oui, c'est vrai. Votre première grande émotion au cinéma, vous avez répondu Les 10 commandements, version Charlton Heston.
On m'a traîné par le col pour aller le voir, quoi. Donc, Alors, grande émotion parce que c'était vachement long.
3h30.
Ouais, 3h30, avec l'entracte, tout ça, et que je n'étais jamais allé au cinéma de ma vie, en fait.
Donc, ah ouais, c'est le premier film que j'ai vu.
C'est le premier film que j'ai vu. Donc c'est pour ça que je parle de grande émotion, parce que l'écran me paraissait immense, tout était immense.
C'est
un spectacle.
La grande épopée par excellence. Voilà, grand
exactement.
Spectacle.
Voilà. Je pense que deux jours après, je n'en avais plus. Tu m'aurais demandé. Alors raconte un peu.
Il n'en restait pas grand-chose.
Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'en avais pris plein.
Peut-être l'ouverture de La Mer Morte, à la limite, ça marche.
Ouais, j'ai fait spécial, bien sûr.
Un film de Cécile B2000. Alors, votre meilleur souvenir de cinéma, vous avez dit Vortex de Gaspard Noé. C'est un film qui sort donc face aux gagnants le 13 avril, la semaine prochaine. Vous l'avez découvert où? À Cannes, peut-être? Quand vous avez présenté Suprême?
Non, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps dans une petite salle à Paris. Gaspard m'a appelé. Non, parce que c'était ma dernière sensation. Voilà, mon dernier souvenir cinéma. C'était mon dernier, c'était donc mon meilleur. Je suis comme moi.
Alors, bien sûr, la mise en scène est remarquable, comme toujours, avec Gaspard Noé. C'est triste quand même.
Ouais, mais je trouve que Gaspard, il a ce truc, quel que soit le sujet.
Ça raconte la fin de vie.
Hein. Ouais, ça raconte la fin de vie, tout ça. Mais moi, ce qui me surprend avec lui, c'est quel que soit le sujet qu'il entame, il y a toujours ce moment où tu te demandes, putain, c'est gênant, quoi. Il arrive à faire des choses ultra gênantes et je trouve que ça manque au cinéma, quoi. Ce truc qui n'est pas convenu, tu t'assieds, machin, et puis d'un seul coup, tu te dis, waouh, putain. Mais je pense qu'aussi, ça doit être aussi parce que je tournais avec Asia Argento dernièrement, donc. Tac, comme je suis une personne binaire, et ben voilà. J'ai fait simple.
Des univers un peu.
Voilà, j'ai fait simple.
Un peu dark. Mmh. Votre séance de cinéma la plus dingue, vous avez dit Evil Dead.
Ouais.
Donc Evil Dead, c'est un film d'horreur culte de référence de Sam Raimi.
Parce que en fait, c'était une époque où d'autres et moi, on était jeunes et on rentrait au cinéma mais par derrière, et donc on savait pas du tout quel film on allait voir. Et donc, c'était le premier film d'horreur de ma vie.
Génial.
Et donc, on s'est assis, on tac, et j'ai pris ce truc, je crois que j'ai mis une semaine à m'en remettre. Enfin, voilà, quoi, c'était horrible.
C'était horrible.
C'est-à-dire que le film venait de sortir. Donc, tac, et puis ce truc, d'habitude, on paye une place, on sait ce qu'on va voir, on peut se faire surprendre ou autre. Là, pour le coup, ça m'est tombé sur la gueule, bam. Et puis avec mes potes qui étaient un peu plus vieux, donc qui faisaient, tu sais, les blagues qu'on faisait, le coup du chien sur le siège,
c'était
genre tac et tout. Non mais je suis ressorti,
traumatisé.
Voilà. Et je crois que la fois d'après, j'ai dû voir le premier Alien. Et donc les salles de cinéma, j'avais toujours cette petite appréhension avant d'y aller, tac, et après j'ai dû voir Conan le Barbare, et là ça allait mieux. Voilà.
Oui, là ça passait crème après Evil Dead. Le film qui vous fait tomber amoureux de son actrice.
Ouais.
Et là vous avez dit 37-2 le matin.
J'en avais pas d'autre en fait.
Il est très bien. Film culte quand même de toute une génération, de Jean-Jacques Benex qui nous a quitté cette année, avec Béatrice Dalle.
Ouais. Avec Jean-Claude, ouais. Mmh.
Donc, vous aviez, je crois, 19 ans au moment de sa sortie au cinéma, j'ai calculé.
Ah, mais je l'ai vu bien après. Hein.
Ah, vous avez découvert ça après?
Mais je crois que j'ai rencontré Béatrice et j'ai vu le film après, en fait.
Donc, la réalité a rejoint la fiction complètement.
Voilà, c'est tout. Ouais.
Je ne trahis rien. Hein. Ok, on passe à une autre question. Quel genre d'amoureux êtes-vous?
Quel genre d'amoureux suis-je? Je ne sais pas, peut-être un peu spartiate, mais... Mais prévenant, c'est dur d'être protagoniste et spectateur à la fois, donc, et de raconter tout ça, et puis ça n'a aucun intérêt, il est trop tôt là.
En tout cas, c'est un très beau film et c'est l'amour à l'épreuve de la folie, c'est l'amour fou, c'est l'amour passionné. Je vous vois bien amoureux passionné, je vous imagine bien amoureux passionné.
Bah, oui, mais pour moi ça ne se vit pas autrement,
voilà.
Avec de la passion l'amour, effectivement.
Et un peu de souffrance du coup.
Ah bah chier dans la douleur, c'est mon quotidien.
Le film qui vous fait pleurer à chaque fois. Interstellar.
Mais sérieux, en plus, sérieusement.
C'est vrai, bah, c'est le film est terriblement triste. D'ailleurs, Matthew McConaughey, je crois qu'il pleure tout le film quasiment.
Ouais, non, mais je trouve que ce film, moi j'aime la science-fiction, et donc je trouve qu'il a tout, et puis il a ce truc, je pense qu'à mon avis, il doit jouer sur une corde aussi qui, moi, me parle beaucoup aussi.
Cette
espèce de truc, l'abandon surtout, quoi. L'abandonite, comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui, quoi. Voilà, je dois avoir ce syndrome de l'abandonite, donc ça me parle à mort, quoi. Voilà.
Ça réveille des choses enfouies.
Oui, madame.
Mais c'est vrai que le film est larmoyant. Bon, je vous laisse tranquille sur celui-là. On va passer à votre comédie romantique préférée. Et Joey Starr, ne fait pas ce genre de choses.
Non, mais je suis sérieux.
Et pourtant, vous êtes un grand romantique.
Non, mais ça m'est déjà arrivé d'être, d'être avec quelqu'un, qui me dit, tiens, on regarde ça. Alors, je regarde, mais je finis toujours dans la cuisine en train de...
En train de cuisiner.
Ouais, en train de... Ouais, ça m'a donné faim, ton truc.
Ça vous plaît pas?
Non, c'est pas une histoire de pas me plaire, ça ne me parle pas, en fait. Voilà, quoi, je trouve que...
Ces choses-là se vivent au cinéma.
Ouais, voilà. Voilà, alors je vais peut-être avoir l'air d'un vieux
con. Non, ça
mais,
me va comme réponse.
Mais ça me va aussi d'avoir l'air d'un vieux con. Je vis avec.
Oh, il en faut quand même toujours un peu. Ah, pour coller au personnage.
Alors, pour coller au personnage, je ne sais pas. Hein. C'est pas moi, c'est mon corps. Voilà, mais mon corps est réfractaire à ça. Enfin, je sais pas.
À la comédie mielleuse.
Ouais, non, oui, non. Je ne trouve pas mon compte.
Bon, alors le film que vous conseillez à un enfant, ça j'aime bien. Dick Neck. Un enfant un peu grand, quoi. Pas un petit. Parce qu'il y a quand même c'est un peu vulgaire.
Il va décrocher vite fait, quoi.
Ouais, il va pas comprendre la subtilité des dialogues.
J'étais dans la connerie, bien sûr, forcément. Moi je sais que je l'ai montré à un de mes fils, je crois que c'est le deuxième. Bon, déjà l'accent belge, déjà.
Oui, c'est vrai.
Fonctionne à mort.
À mort.
On le remettait parce qu'il fallait que je lui explique ce que disait le type avec les expressions, le langage fleuri et tout ça. Mais finalement, il a tenu un bon moment, quoi.
Et il a bien aimé. Il avait quel âge? Vous en souvenez?
Je pense qu'il devait avoir, à mon avis, il devait avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Enfin, voilà.
Ou tu sors ou je te sors, mais il faut la prendre une décision.
Allez, viens.
Jacques, mon malade! Viens, garçon! Ma mère, comment? Ta mère, maman, Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto.
C'est François Damien, ça.
Ouais, mais c'est parce que aussi, je pense qu'à mon avis, il y a aussi un contexte. C'est que je n'ai jamais été gaga avec mes enfants. Moi. J'ai toujours eu un langage... La mère de mes deux plus grands m'a toujours dit « Mais tu veux pas mettre un filtre, s'il te plaît? Ils n'ont pas ton âge. C'est pas tes copains, les mecs. » Tu vois, tac, tac. Et donc, comme ça a toujours été comme ça... Du coup, je pense qu'ils ont une double lecture. Ils ont celle qu'ils ont avec leur mère et celle qu'ils ont avec moi. Et moi, j'ai montré.
Ils débrouillent avec les deux.
J'ai montré, par exemple, la première saison d'Euphoria à mon fils à l'âge de 12 ans. Et sa mère m'a appelé, m'a dit Mais tu lui as parlé au moins avant? Je dis non, mais il a ri. Qu'est-ce qu'il a ri? Voilà. Donc voilà.
Et donc, ils ont grandi, ils sont assez mûrs. Pour leur âge, forcément.
Disons qu'ils, quand ils sont avec moi, ils gagnent du temps. Moi, je reste dans le raccourci.
C'est bien, ouais, c'est bien résumé. Le film que vous avez le plus vu, Ne nous fâchons pas.
Ouais, ouais.
Pourquoi?
Pour l'époque, c'est un film qui me file pas mal de réminiscences d'une certaine époque.
Ino Ventura, Mireille Darc, Jean Lefebvre.
Ouais, j'aimais ce bagout. Alors, c'était pas forcément une époque, c'est une époque fantasmée, bien sûr. Voilà. Mais pour le style. C'est une histoire d'époque.
T'as eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable.
Mais c'est tout, monsieur le commissaire.
Et c'est ainsi que vous lui avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière.
J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà.
Mais dites-moi, et les deux autres, les témoins?
Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire.
Ah oui, en même temps. Ils l'ont traité de brute.
Toujours les mêmes ambiances, en fait.
Oui, c'est ça. Hein. une réplique culte. Voilà, vous avez en général les répliques de Bertrand Blier. Il y en a beaucoup. Hein. Celle-là était pas mal, celle qu'on vient d'écouter.
Il y avait mieux à faire, mais bon,
C'est compliqué d'en tenir.
Non, mais entendons-nous, j'ai répondu à ce questionnaire parce que c'était toi. Mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Je ne le fais jamais. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas arriver les mains vides, donc voilà.
Franchement, ça me touche beaucoup.
Non, mais c'est vrai en plus.
C'est vrai, vous avez répondu au questionnaire en temps et en heure, en avance.
Ouais, voilà. Alors que ça fait plus chic d'arriver en retard.
Merci beaucoup, Joëstar. Vous savez que je vous aime beaucoup et j'étais très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Voilà pour les films de la vie de Joëstar. Dans un instant, mes stars à moi, Franck Vallière et Victor Bonnefoy, vous diront tout sur les films à découvrir au cinéma. A tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap et ça tombe bien puisqu'on parle maintenant des sorties cinéma de la semaine. Alors au programme aujourd'hui, des missions à haut risque. L'une dans un train au Japon et l'autre sur les plages de France avec un requin en ligne de mire. On parlera aussi d'un paysan turc face à ses remords. Alors on commence notre tour d'horizon avec Bullet Train, un film d'action complètement déjanté signé David Leitch. À ne pas confondre avec David Lynch, ça se ressemble, mais c'est pas ça.
C'est David Leitch.
David Leitch, il a réalisé Atomic Blonde ou encore Deadpool Deadpool 2. Alors le pitch, un tueur à gages nommé Coccinelle et interprété par Brad Pitt est en mission dans le train le plus rapide au monde au Japon. Le problème, il y a 4 autres tueurs à gages, ça fait beaucoup,
plus que ça, même encore.
Avec la même mission.
Oui, je t'écoute.
Je suis prêt, je suis une version améliorée de moi-même.
Tu as peut-être oublié comment tu gagnes ta vie. Prends cette arme.
À chaque contrat que j'ai eu, il y a eu un mort. Je fais plus ça maintenant.
Certains conflits exigent une arme.
Il n'y a rien de simple dans cette affaire.
Il se passe quelque chose d'autre.
Oui, je suis pas le seul dans ce train à vouloir cette mallette.
On est pile dans les temps.
La version japonaise de Staying Alive quand même. Hein.
J'adore. Ouais. C'est magnifique.
Eh bien écoutez, c'est le film le plus tarantinesque de l'été.
Trop sympa.
On retrouvera entre autres aux côtés de Brad Pitt un tandem qui rappellera, mais gravissime, même si sa version britannique du tandem que formaient Samuel Lee Jackson et John Travolta dans Pulp Fiction. C'est très bavard, c'est très verbeux, c'est beaucoup d'action. Tellement que peut-être qu'au bout d'un moment, vous direz « Oh, je n'en peux plus là ». C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt, c'est à la fois du Tarantino, c'est à la fois à couteau tiré. C'est un film d'action et de parole qui est multi-référentiel et des degrés qu'on n'imagine même pas. On sent immédiatement la patte de Lynch. Si vous avez aimé Atomic Blonde, c'est Atomic Blonde avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'action et beaucoup plus de retournements jusque dans les dernières secondes. C'est tellement bonnard qu'on sort essoufflé.
Voilà. Ah bah après, comme vous après la chronique.
C'est bien sûr totalement invraisemblable, etc. Mais le casting est dantesque, la musique est super. C'est beaucoup de Kill Bill, c'est très référencé sur Tarantino quand même.
Et puis il y a Brad Pitt.
Beaucoup de Kill Bill, beaucoup de Pulp Fiction, beaucoup de Reservoir Dogs pour les paroles.
Et puis il y a Brad Pitt.
Oui, ça, on l'a déjà dit, ça va.
C'est bien de le souligner.
Vous voulez dire le...
Brad Pitt.
Ah, il est célibataire en ce moment, c'est pour ça que vous voulez vous caser.
Non, mais moi je suis une femme mariée, hein, j'ai arrêté tout ça.
Oui, bah pour moi, tu sais...
Pour Brad Pitt, on peut faire des exceptions.
Je pense que là...
D'ailleurs, Brad Pitt qui a dit récemment qu'il arrivait vers la fin de sa carrière, n'importe quoi.
Bah écoutez,
s'il veut prendre sa retraite, qu'il la prenne. Hein.
Bah, oui, fait comme il veut, 58 ans. Commence à marquer en même temps, le petit bonhomme. c'est odieux.
Oh, oui, c'est ça. Heureusement que ça signe pas la fin de sa carrière.
Voilà, qu'il arrête, qu'on ne le voit plus, qu'il laisse de la place aux autres un peu.
Bon, on continue avec le film parfait pour l'été. C'est l'année du requin de Ludivic et Zoran Boukherma, les réalisateurs de Teddy. Le film raconte comment Maya, une gendarme maritime jouée par Marina Foïs, qui est censée prendre sa retraite, va devoir se débarrasser d'un requin qui menace le bassin d'Arcachon et les vacanciers. Avec donc au casting Jean-Pascal Zadi et Kad Mérade. C'est une dernière mission vraiment très drôle et légèrement effrayante aussi quand même.
4 mètres.
Peut-être 5. Vous fermez les plages, Ruben.
Je te laisse une semaine.
Ils ont personne d'autre à la brigade ?
C'est baignade interdite, là !
Oh, papy, t'es bouché ou quoi ?
J'ai un requin à attraper.
C'est là qu'il pense. C'est là qu'il pense. Ah,
emmenez-moi, nom de Dieu! Ah ben merci, l'ingénieur!
Les Dents de la Mer, version la kiffance.
Version la non-kiffance, malheureusement.
Vous n'avez pas aimé, je sais.
C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les frères Boukherma, ils avaient fait un autre film, un film de loup-garou qui s'appelle Teddy, et qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment séduit dans sa proposition de « on va faire un film de loup-garou qui se déroule dans le sud-ouest ».
Donc vous partiez de bonne humeur.
Je partais très heureux et j'avais hâte de voir ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas un film qui a un cul entre deux chaises, c'est un film qui a pas de chaise. C'est-à-dire que...
C'est embêtant.
Oui, mais c'est un peu ça le
pour
souci.
Pour poser ses fesses.
Exactement. C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même dans une situation où... À la fois, on a envie de faire une sorte de parodie des Dents de la Mer, et en même temps, on n'a jamais vraiment envie de faire une comédie. C'est-à-dire que c'est trop sérieux pour être une comédie, et en même temps, pas assez sérieux pour être un film qui prendrait premier degré son sujet. Les comédiens semblent toujours à côté, ils n'ont pas vraiment de personnages qui existent. Jean-Pascal Zadi n'existe pas dans le film, Marina Foïs n'est que sa fonction. Le seul personnage qui existe, un tant soit peu, c'est Kad Merad, et encore, c'est un personnage secondaire. Je suis embêté parce que j'arrive pas à voir dans ce film autre chose qu'une reprise lambda des Dents de la Mer filmée au grand angle. Et ça m'embête un peu parce que là où il y avait quelque chose d'un naturel assez fou dans Teddy, où justement cet accent du sud-ouest venait saupoudrer un petit peu pour dire on est français et on l'assume, là j'ai carrément l'impression que le sud-ouest est devenu une parodie, quelque chose qu'ils prennent pas au sérieux, où eux-mêmes ne savent plus quoi faire de leur sujet, à part l'idée qu'ils avaient envie de faire un film de requin, sauf que Les Dents de la Mer ça existe déjà, et à plein de moments on a quand même une scène où t'as...
Et c'est réalisé par Steven Spielberg.
Oui, c'est ça, mais il y a quand même une... Pour te dire à quel point on est dans la reprise, il y a quand même un moment où il y en a un qui dit...
On va avoir besoin d'un bateau plus gros.
Oh, c'est ça, on va avoir besoin d'un bateau plus gros, j'étais genre, oui, bateau tout à fait.
Les colonies de Big Boat dans Les Dents de la Mer. Ouais.
Est-ce que vous avez plus gros clin d'œil, monsieur gros clin d'œil, quoi, s'il vous plaît ?
Alors, je pondérerai un tout petit peu ce que tu dis, Victor, concernant notamment le rôle de Marina Foïs, qui, même si elle fait inévitablement penser au rôle que portait Frances McDormand dans Fargo, c'est-à-dire il y a une intériorité quand même dans ce personnage qui est assez intéressante par rapport à l'aspect un peu fun et franco-français, presque grand-guignolesque de son mari qui est joué par Cadmerad. Il y a quelque chose qui relève de l'obsession, qui est d'ailleurs la même que Petit Roy Scheider dans Les Dents de la Mer.
Ouais.
Après, c'est vrai que il ne s'agit pas de dire qu'ils sont opportunistes sur ce coup-là en disant on va faire un film de requin sur l'été, etc.
Pas du tout. Mais en fait, dans Teddy, ce qui est intéressant, c'est que le réel de Teddy venait servir le genre du film de loup-garou. Mmh. Là, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Le réel vient le saupoudrer, mais n'est qu'un artifice qui, au final, ne sert jamais le genre du film de requin et qui est. On reste toujours quand même un peu en dehors, quoi.
Puis il y a cette voix off continue qui est.
Mais qui aurait pu être un gimmick drôle, parce qu'il y a certains gimmicks qui sont un peu rigolos. Mais en fait, ça marche pas. À la longue, en fait, ça devient juste une blague un peu lourde où on se dit, c'est même arrêter d'essayer de le vendre comme une comédie. Si vous comptez aller voir L'Année du requin en disant, oh, je vais passer quand même un bon moment de gaudriole, on va bien rigoler, vous risquez rapidement de déchanter.
Alors, un film qui a retenu votre attention, en revanche, Franck, c'est Les Promesses d'Hassan, hein,
ah
c'est
oui,
ça
mais alors, on ne va pas rigoler non plus.
On ne va pas rigoler. C'est un film turc qui a été présenté à Cannes, mais surtout qui était candidat aux Oscars du meilleur film étranger. Ça parle de quoi exactement ?
Qui représentait la Turquie. Alors, on est dans la campagne, dans la Turquie rurale, de nos jours. Il faut rappeler quand même que la Turquie est un pays laïque, mais quand même très grandement musulman. Et on va suivre le parcours d'un paysan qui fait ce qu'il peut. C'est compliqué, il n'y a pas trop d'eau, c'est un peu la galère. Et qui, d'un seul coup, va gagner son ticket pour aller visiter la Kaaba, le grand voyage que font tous les musulmans qui en ont la possibilité et les moyens. Sauf que, à partir de ce moment-là, alors parallèlement à ça, il y a quand même un pylône qui doit s'installer dans son champ de tomates et il magouille un peu pour que ça se passe dans le champ du voisin. Et quand il apprend qu'il doit faire ce voyage, il doit essayer de racheter toutes les fautes pour arriver le plus pur possible autour de la Kaaba. Et donc, il va commencer par aller voir un cordonnier avec qui il avait oublié de filer 200 balles. Et petit à petit, on va remonter le cours de ces petits mensonges. Et au final, on atterrit à un drame, mais absolu. Le film travaille en lenteur, façon un queue pour un dernier quart d'heure très dense. La nature est extrêmement importante et ça parle essentiellement de l'hypocrisie de la religion, de la facilité d'y accéder, mais en même temps de la difficulté de se faire accepter s'il faut aller se faire pardonner de toutes nos fautes. Et surtout d'un drame familial autour de cet homme. Qui encore une fois est travaillé sur la lenteur, on n'arrive pas à imaginer tout ce que cet homme va devoir affronter pour arriver à faire ce voyage-là, et ça devient un enfer sur Terre. C'est certes un peu long, ça fait 2h30, mais il y a une véritable proposition de cinéma, le vent est extrêmement important, et en gros le film dit que l'homme a complètement oublié que la terre, l'arbre qui pousse sur la terre et les fruits qui poussent sur l'arbre sont aussi vivants, parce que évidemment l'Union Européenne en prend plein la gueule en disant qu'on leur envoie à eux des engrais complètement chimiques pour qu'au final les fruits qu'ils font pousser avec ces engrais ne soient pas vendables en Europe. Il y a plein de choses, et c'est un film très poétique, voilà.
Franck, pour terminer, il faut quand même mentionner la ressortie d'une collection de films signés François Truffaut. La sirène du Mississippi, L'argent de poche, L'ambre verte, L'histoire d'Adèle H, L'homme qui aimait les femmes, L'enfant sauvage, La mariée était en noir. Que des pépites de cinéma, si on devait en choisir une.
Après, moi, je ne suis pas un grand truffaldien passionné, hein, mais quand même.
Moi, je dirais L'argent de poche, quand même.
Ouais, moi, je dirais.
Emmener vos enfants.
Non, L'homme qui aimait les femmes.
Aussi.
Les jambes des femmes sont comme des compas qui arpentent le monde. Et Charles Denner, dans le rôle principal, qui prouve une fois de plus, même si c'était il y a 50 ans maintenant, qu'on peut être masculin sans être un bourrin. Je trouve que c'est un film exceptionnel.
Merci à tous les deux, Franck Vallière, Victor Bonnefoy. C'est déjà la fin de ce clap. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour continuer de parler des vacances d'été sur grand écran. En attendant, restez bien sûr à l'écoute d'Europe 1. Bonne semaine à vous.